Chronique d'un nouveau monde numéro 10, le 15 janvier 2020. Vous êtes les Cassiopéens, nous sommes les Léo. Voici venir le moment de nous saluer.
Ce texte, rédigé pour être également envoyé sous forme de mail, était d'abord destiné à toute l'équipe qui s'emploie à faire connaître l'extraordinaire enseignement cassiopéen. Sa rédaction s'est finalement révélée être une bonne opportunité pour procéder à une petite récapitulation de notre propre parcours afin de percevoir qu'un nouveau soleil se préparait déjà à éclairer l'horizon des années futures. Bonjour Laura, Arc et salutations à toute l'équipe du château de Castelsarrasin. Cela fait un certain temps que nous sommes sensibles aux sessions conduites par Laura, Arc et sa proche équipe de passionnés. Nous y faisons souvent référence dans nos propres écrits, puisque nous aussi, nous nous inspirons des enseignements des Cassiopéens. Ils sont de ceux qui comportent le plus de résonance avec notre propre parcours. Malheureusement, ne maniant pas la langue de Shakespeare et encore moins la portée de son langage subtil, nous rencontrons parfois certaines difficultés à percevoir plus explicitement non seulement le sens des mots et de certaines constructions paraphrasées, mais aussi le fonctionnement du psychisme de l'esprit anglophone qui, de toute évidence, est peu commun à celui du sud de la France. Nous avons donc bien conscience qu'avec la meilleure volonté du monde, les traducteurs des sessions avec les Cassiopéens de l'anglais vers le français ne sont pas toujours en mesure d'interpréter avec clarté les différents niveaux de lecture ou la fréquence d'énergie que recèle leur communication. Et cela peut parfois poser problème aux lecteurs apprentis quêteurs de connaissances. Ainsi, le premier obstacle qui empêcherait l'échange d'informations claires et fluides entre la conscience de l'esprit français et celle de l'esprit anglophone serait la barrière de la langue. Heureusement qu'il existe désormais des traducteurs automatiques suffisamment performants pour que le sens de déduction de l'esprit humain et son intuition puissent parvenir à interpréter les enseignements des Cassiopéens et de les comprendre au-delà de la traduction des mots. Car c'est précisément en faisant appel à ce niveau de communication au-delà des mots que nous avons été inspirés à intervenir aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous ? Nous constituons une petite équipe d'une vingtaine de personnes, de 5 à 75 ans, habitant le même village dans l'Aude, à Albert. Engagés et passionnés par la quête de la connaissance, nous avons été parachutés, tout comme vous, sur les traces des alchimistes et des initiés à la quête du Graal dans les Pyrénées. Voir par exemple le dialogue avec notre ange numéro 45. Voir le lien sur notre site. De notre temps, ces alchimistes s'y réfugieraient encore. Nous sommes donc voisins. Depuis 2003, la plupart d'entre nous vivent avec très peu d'argent et nous nous en portons très bien. Et bien que nous soyons toujours dépendants des revenus sociaux, nous avons créé en 2018 une école spirituelle et matérielle, simplement financée par des dons. Sur un chantier de rénovation d'une vieille maison forestière, lieu que nous avons appelé Écoléo, l'école des Léo, Lyon, nous passons une partie du temps à sa réhabilitation et l'autre partie à observer nos comportements respectifs, nos attirances-répulsions des uns envers les autres, nos blessures de l'âme, nos fonctionnements psychiques, nos freins et peurs et beaucoup d'autres singularités que nous découvrons par exemple par le système d'indices des prénoms, par la loi de la synchronicité des événements ou la lecture de leur symbolique occulte. Voir à ce propos le cahier de l'ange numéro 15, voir le lien sur notre site. Nous sommes donc pleinement et quotidiennement investis dans l'apprentissage appliqué de la connaissance. C'est de cette manière que nous avons compris qu'en partageant les informations tirées de nos expériences quotidiennes, dans lesquelles nous nous employons consciencieusement à décrypter les indices, et parce que nous laissons profiter nos lecteurs de nos expériences concernant le pouvoir libérateur des émotions par notre propre travail de transformation des mémoires du soi, que nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Et nous ne parlons pas seulement d'argent. Ceci tout simplement parce que nous avons foi en la puissance de l'art des gens et en la magie de l'âme groupe d'un réseau dont beaucoup, surtout parmi les francophones, sont communs à celui des Cassiopéens. Alors, tout en observant et expérimentant notre quotidien au sein de la tribu, en portant particulièrement attention à nos comportements et en acceptant de reconnaître nos parts d'ombre, nos zombies intérieurs, nous tâchons au mieux d'appliquer cette autre facette d'un savoir caché comme étant celle de notre propre quête de la connaissance. C'est ainsi qu'à travers notre quête, les membres de notre équipe avaient appris par les Cassiopéens que la connaissance pouvait être révélée tel un phare qui éclaire le monde, c'est-à-dire lorsque des informations sont exprimées ou portées vers et dans le monde extérieur. Mais nous avons aussi perçu que cette lumière information pouvait également se mettre à briller et illuminer l'intérieur de notre être, notre soi. Et lorsque cette lumière commençait à illuminer notre soi, elle allait également éclairer la route vers une nouvelle ligne de temps, un autre avenir ouvert par notre soi supérieur, vers ce que nous nommons le soi futur. En somme, nous avons découvert comment ceux de notre passé pouvaient devenir ceux de notre présent et comment ceux de notre présent pouvaient devenir ceux que nous sommes déjà dans le futur. Ainsi, notre tribu a été propulsée dans sa quête par une sorte de porte dérobée, une partie occultée à la conscience de nombreux chercheurs. Elle serait tout bonnement la part invisible de la connaissance, un inestimable trésor intérieur qu'avaient décelé les alchimistes pyrénéens dans les profondeurs de l'âme. Nous avons donc osé explorer des réalités et des pistes de recherche que, selon toute vraisemblance, les participants du groupe de Castelsarrasin n'ont que peu relevé, parfois même quasiment balayé sous le tapis. Peut-être qu'il y aurait une bonne raison à cela, puisque ce genre de quête n'était de prime abord pas votre priorité. Car cette forme de quête n'est pas intellectuelle ni matérielle. Elle serait plutôt de l'ordre d'un accomplissement intérieur et spirituel. Alors évidemment que vous ne pouviez pas tout faire, car par le versant masculin, c'est-à-dire cérébral, pragmatique, rationnel, objectif, scientifique, que l'équipe du château rayonne dans le monde à travers les phares de Sotte, Cassiopeia ou Quantum Future Group, l'équipe devait d'abord employer toute son énergie à éclairer ce monde extérieur de mensonges, de corruption et d'illusions, afin d'y apporter des informations à la lumière de la vérité. Rappelons-nous cependant que dans l'expérience quantique des deux fentes, l'observateur, le scientifique, semble toujours occulter un point essentiel. Quelles sont les conscientes intelligences qui ont inspiré à l'observateur l'idée de n'installer que deux fentes verticales symboliques de la dualité? Serait-ce parce que certaines voies et directions de recherche n'étaient pas encore familières à tout le monde? Nous avons alors compris pourquoi les Cassiopéens ont parfois fermé certains types de questions ou n'y ont jamais répondu. Peut-être parce que le groupe de recherche du château n'avait pas encore à s'engager davantage dans cette direction. Nous pouvons donc comprendre pourquoi, par moment, vous pouviez vous sentir seul au monde à déployer le gigantesque travail que vous avez accompli. Nous pouvons néanmoins vous assurer de ce pas que votre œuvre n'était pas vaine. Car d'autres personnes qui contribuent à ce travail de recherche et de diffusion de la connaissance existent sur la planète. Nous n'y incluons évidemment pas toute la nébuleuse amour et lumière. Et là, assurément, nous ne sommes pas nombreux, puisque peu de gens comprennent réellement l'orientation de l'âme au service d'autrui, SDA, et que de ce fait, peu en parlent. Dans ce cas alors, il n'y aurait effectivement pas encore beaucoup de phares de vérité allumés sur Terre. Ceci dit, au pied de ces quelques phares, les conduits qui séparent les deux mondes se dévoilent et commencent à se préciser. La récente conjonction de Saturne-Jupiter marquait-elle le passage à l'ère du Verseau? Peut-être que oui. N'étant pas experts en astrologie, nous avons néanmoins perçu que malgré les catastrophes et horribles choses annoncées par Klaus Schwab au forum de Davos, l'humanité appelle la transition et le monde extérieur commence à changer. Et c'est probablement pour cette raison que certaines des calamités attendues par les mondialistes semblent ne pas vouloir se produire. Du moins, pas de la manière dont les opérateurs du service de soi SDS les avaient planifiés. Toutefois, les plans de ce gigantesque chaos qui s'organise sur la planète en ce moment avaient été annoncés depuis fort longtemps déjà. Certains de nos ancêtres et initiés dans les Pyrénées ont même laissé des indices pour nous en prévenir. Pour notre part, donc, et dans notre propre jeu de pistes, les premiers indices à propos de la transition de notre réalité vers la quatrième densité nous ont été proposés par nos recherches historiques à propos du langage des oiseaux, et non pas des oiseaux, comme le proposeraient les légendes, et surtout aussi grâce à nos enquêtes sur le terrain. Le langage des oiseaux, la langue d'oc, en d'autres termes, le patois des poussins de l'oie, était un moyen de communication, parlé, codé ou secret, composé de signes et de fragmentations du sens des mots, une sorte de dialecte qu'utilisaient les cagots des Pyrénées vivant dans le Languedoc. Ce patois, ou patte d'oie, était utilisé pour indiquer ou signaler aux futurs chercheurs de connaissances, à savoir ce que nous sommes aujourd'hui, certains des secrets de la connaissance cachée. Les cagots étaient parmi ces gens, charpentiers et tailleurs de pierre, qui sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ont entre autres participé à la construction de la cathédrale d'Auch. Ils étaient ceux-là même qui avaient gravé le nom de Knight et la date de naissance sur le parterre de cette cathédrale. Ils étaient ces initiés qui ont laissé quantité d'indices et artefacts non apparents dans les montagnes pour les profanes, mais qui néanmoins restaient lisibles par les individus à qui ils étaient destinés. Alors, pourquoi ces alchimistes de l'âme se sont-ils efforcés de laisser de tels indices? Pourquoi les Cassiopéens ont-ils indiqué à Laura et à ses proches de partir des États-Unis et de s'installer dans le sud de la France et non pas ailleurs en Europe? Pourquoi cherchait-elle une enclave d'alchimistes dans les Pyrénées? Il n'y a aucun hasard. En langue française, un alchimiste est un initié qui s'emploie effectivement à alchimiser ou à transformer les mémoires de l'âme. Dans son creuset, autrement dit à l'intérieur du soi, de son être, et une fois sorti de l'ego, l'alchimiste transforme le plomb, les blessures lourdes ou les traumatismes de l'âme, en or. Transposé dans le tableau périodique des éléments, il s'agit de la transformation du plomb, numéro 82, PB, ou abréviation française du mot « problème », en numéro 79, AU, ou or, ou trésor qui signifie richesse. Ce 13 or ne ferait-il pas également référence au 13e chromosome inséré dans l'ADN non codant qui contiendrait ce trésor caché, sa richesse intérieure? L'ADN non codant serait relié à ce réservoir d'informations qui à la fois nous influence et nous informe. Et grâce aux propriétés de ce fameux champ morphogénétique, et à la magie de l'épigénèse, nous contribuerions à pourvoir à la transformation des programmes génétiques de nos ancêtres et de nos générations futures. Notre ADN non codant renfermerait donc l'histoire passée et future de l'humanité et posséderait une sorte de programme mémoriel qui se modifierait selon nos émotions. Nous pourrions donc, grâce à certaines propriétés de la conscience et de l'imagination, reprogrammer notre génome, puis notre réalité. Découvrir en soi cette connaissance tapie dans l'ombre mènerait à la pleine conscience, à la fois celle du caché et celle du connu. Cette connaissance, ce fameux trésor caché en nous, ferait référence à la découverte du savoir dissimulé, du dialogue intérieur et du processus de réflexion ou du miroir. D'ailleurs, le nombre 13, omniprésent dans la spiritualité, se rapporterait à la réalisation absolue, à l'intégration du savoir et à la vision du caché qui mènerait à l'accomplissement spirituel. Ainsi, grâce aux propriétés de ce champ vibratoire de résonance, nous pourrions, par notre propre transformation, offrir à l'âme de nos ancêtres et à celle de nos générations futures des haltères d'autres nous-mêmes sur une ligne réalisée dans le passé ou potentielle dans le futur, la liberté de choisir de changer de direction. Ce qui signifierait également que l'ADN non codant transporterait nos programmes de wanderers, de voyageurs temporels que, par ce travail de transmutation, nous serions en mesure de réveiller. Transformer l'ADN de son être intérieur indiquerait alors que nous acquérions une plus grande richesse d'âme en partageant, par âge en, l'art des gens grâce au rapprochement transgénérationnel et transdimensionnel du soi. Alors les moyens, l'or y compris les moyens financiers, l'argent, l'art des gens, arriverait lorsque nous osons identifier nos zombies intérieurs, ensemble, en famille, en groupe ou en tribu. Ce travail intime, réalisé à plusieurs, réactiverait alors ce 13e chromosome qui serait celui de notre appartenance à une famille d'âmes, à l'unité tribale, surtout lorsque nous apprenons à travailler en réseau dans l'intention profonde du service d'autrui. Poursuivons alors. En français phonétique, le langage des oiseaux décompose les mots loranite en loranite ou loranite qui signifie l'or du servant ou chevalier servant en position de génuflexion. Laura a effectivement déjà commencé à découvrir l'étymologie de son nom, mais à notre humble avis, ce n'était qu'un début de piste. Peut-être devrait-elle s'interroger de qui elle serait le chevalier servant. Donc, pour le moment encore, Laura et son équipe dorment apparemment sur un trésor au sein de l'enclave d'alchimistes qu'elle était censée découvrir dans les Pyrénées. Évidemment que les Cassiopéens, qui représentent l'énergie psychique et mentale des membres du groupe du château de Castelsarrasin dans le futur, c'est-à-dire l'âme supérieure ou l'âme mère du groupe, ont guidé Laura vers le sud de la France. Tout bonnement parce que, connectée au champ morphogénétique de son groupe, Laura a su comment allumer le phare qui éclairerait le monde extérieur, mais aussi pour qu'elle puisse enfin commencer à découvrir la raison profonde de sa présence en France. Et elle se soucierait encore de trouver de l'argent ? Ce jeu de pistes pourrait révéler des choses quasiment à l'infini. Simple exemple, comment les habitants du château des Sarrasins pourraient-ils résoudre ensemble les PB, problématiques existentielles, les uns avec les autres, et procéder à leur nettoyage émotionnel et intérieur en se soutenant mutuellement ? Le terme sarrasin n'était pas toujours utilisé pour désigner les musulmans, mais il signifie aussi ceux qui se comportent comme des païens ou des brigands. Voir le lien sur notre site. Le rêve dark qui lui a été proposé en 1997 ou 1998 en rapport aux zombies, ne serait-il pas simplement une invitation à entreprendre un peu de nettoyage intérieur, déprogrammation, afin de transmuer ces PB en or ? Épaulée par les bonnes âmes du groupe ? À notre humble avis, assurément. Il ne s'agit donc pas de faire brûler de la sauge, de saupoudrer les seuils de porte avec du sel et de balayer les mémoires de l'âme sous le tapis, même si cet humour métaphorique n'était que sous-entendu. Voir le lien sur notre site. Faire un peu de nettoyage intérieur signifierait par exemple de chercher à comprendre le message profond du 666 de sa chambre d'hôpital. N'indiquant pas nécessairement qu'Arc devrait s'attendre à un mauvais présage, ce nombre pourrait être le signe annonciateur d'une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'offrirait à lui s'il s'ouvrait à d'autres potentialités de réflexion. Ne serait-il pas alors envisageable de voir le 666 comme un début de transformation, une opportunité à s'ouvrir à d'autres types d'informations? Ce 666 est un symbole de la connaissance, surtout pour les mathématiciens. Voir par exemple les liens sur notre site. En tant que scientifique de haut niveau, peut-être pourrait-il s'autoriser davantage à s'intéresser au langage symbolique, alchimique, mathématique et géométrique de l'univers, épaulé surtout par la gente féminine porteuse dans ses mitochondries des codes de la transformation des gènes éthiques du groupe. Il n'y a jamais de hasard dans le fonctionnement de l'univers. Aussi, lors de nos recherches, nous avons par exemple été amenés à découvrir à de nombreuses reprises de curieux symboles incrustés dans la roche. Il s'agit de croix dans le cercle, figure qu'on peut retrouver un peu partout dans les Pyrénées, surtout dans l'Aude. Représenterait-elle notre piste à explorer? Peut-être que Arc, en tant que mathématicien, aurait-il des informations à partager sur la géométrie de ces croix dans le cercle, parfois gravées dans des lieux improbables sur des rochers? Voir les photos sur notre site. Nous avons bien compris que cet énigmatique symbole, une figure hybride de la croix cathare et du tétraèdre étoilé aplati, c'est-à-dire l'étoile juive, pourrait faire référence à une connaissance cachée que possédaient les Templiers. La figure du tétraèdre symboliserait le véhicule primordial, imprégné des champs d'énergie de la conscience de l'âme qui voyage à travers les densités. En 6 ou 7e densité, ce vaisseau représenterait la Merkaba, qui, tel un cristal temporel, posséderait une structure atomique qui se répète régulièrement dans l'espace et dans le temps. Voir les images sur notre site. Nous n'allons donc pas étaler ici les détails de nos incroyables recherches sur l'alchimie de l'être, mais nous vous informons simplement qu'il existe dans les Pyrénées quantité d'autres pistes passionnantes à explorer, laissées par nos prédécesseurs, précisément pour nous aider à nous rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici-bas. Les indices qu'ils avaient éparpillés de leur temps étaient prédestinés à ceux qui, dans le futur, faisant appel à leur intuition, se rappelleraient des codes du langage alchimique. Voir les images sur notre site. Ce fameux langage des oiseaux fournit un moyen extraordinaire de déchiffrer une symbolique profonde et intelligente qui, comme le syllabaire sumérien que certains appellent la langue verte, décompose et modifie le sens des mots. Le français étant potentiellement l'une des langues la plus riche et exigeante pour résoudre ce genre de secret, il nous a permis de nous frayer un chemin à travers les Pyrénées à la recherche de nos mémoires de l'âme. Il existe ainsi bien des trésors inestimables encore dissimulés sur le chemin des alchimistes, comme sur nos parcours respectifs. Souvent même, nous ignorons que nous sommeillons profondément dessus. Ces trésors intérieurs, qui nous révéleraient d'autres plans d'existence de l'âme, nous sont parfois révélés à des moments très précis de notre parcours terrestre et sont souvent transmis par la capacité ou l'intelligence que possède l'eau, les liquides cellulaires à l'intérieur du corps et l'eau extérieure au corps, à restituer les fréquences de résonance de nos propres mémoires. Leurs réminiscences peuvent donc parfois se manifester en images par notre proximité avec une fontaine, un puits, un ruisseau, qui font alors office de psychomanthéum naturel. Voir les photos sur notre site. C'est d'ailleurs de cette manière, lorsque nous fûmes amenés à habiter au pied du château du Bézu, à côté du puits des Baruteaux, que des mémoires de vie cathare et templière nous sont revenues à la conscience. Voir le lien sur notre site. Parfois aussi, ces mémoires apparaissent dans nos songes, d'où peut-être, comme l'ont suggéré les Cassiopées à Arc dans la dernière session, de porter plus attention à ces visions. Alors, puisque Laura et Arc se soucient encore de l'argent pour rester un phare allumé dans le monde, nous avons perçu le moment de nous manifester et de révéler notre existence pour leur proposer un peu de réconfort. Notre soutien n'est donc pas matériel. Mais comme nous sommes dans l'obligation de respecter le libre arbitre, nous ne pouvons que vous offrir quelques indices afin que le phare de Sotte et des transmissions cassiopéennes puisse continuer encore à briller pendant notre transition en quatrième densité. Aussi, pendant que l'équipe du château des Sarrasins éclairait le monde extérieur de la lumière de la vérité, le travail de notre groupe, appuyé par des mères généticiennes de sixième densité, était d'œuvrer à éclairer notre univers intérieur. Nous le poursuivons d'ailleurs encore pendant la transition des mondes. Notre univers intérieur est ce monde de l'infiniment petit, de l'atome, de nos gènes, de nos mitochondries, des eaux interstitielles corporelles, de la programmation génétique, des mémoires cellulaires de l'âme. Baignant dans un environnement aquatique, il est ce microcosme qui à la fois est matière et non-matière, ondes et particules, et qui, à l'instar de la planète Terre, baigne soit dans de l'eau douce, soit dans de l'eau salée. Alors, ne devions-nous pas également informer et éclairer notre univers intérieur par la lumière de la vérité afin de modifier sa résonance en direction des mondes extérieurs ? C'est ce que les Léos s'efforcent de réaliser. Nous avions compris que si chaque individu dans notre petit groupe et son réseau arrivait à changer son monde intérieur en réveillant certaines parties de son génome par une infime mais puissante résonance provenant du soi supérieur, qui tout bonnement est la foi, ce changement s'exprimerait également de manière transdimensionnelle dans la réalité de notre monde extérieur. Car selon la réalité qu'habite l'âme, cette infime partie, soi-disant non codante du génome humain, serait possiblement organisée selon les densités, soit autour d'un noyau de carbone, soit de silicium. Alors que les mémoires cellulaires de l'humain, transportées dans les neutrinos de l'âme, se situeraient dans les mondes de l'invisible, de l'énergie ou de la matière noire de l'univers. Ce sont alors tous les programmes non résolus ou karma humains, c'est-à-dire certaines de nos mémoires vibrant principalement leur résonance dans l'antimatière d'un passé ou d'un futur non résolu, que nous appelons alter, qui seraient ces ombres noires ou flyers dont parle Castaneda, ou peut-être encore ce zombie qu'Arc perçut dans sa vision. Parfois aussi, ils seraient ces êtres désincarnés errant dans l'astral qui n'ont pas encore trouvé la lumière de la vérité. Ceci parce que leur partie plus élevée, réincarnée dans les mondes de troisième densité, ne l'a pas encore trouvée elle-même non plus, voire la rejette. Ce n'est donc que par ce travail consistant à illuminer nos parties sombres, qui parfois aussi sont nos ancêtres restés aérés dans les mondes de l'astral, que simplement, grâce à cette recherche de la connaissance spontanément fortifiée par les formes pensées des virus cométaires, nous commencions à laisser éclore le néogénome de l'humain à venir. Ainsi, à travers notre changement de conscience, nous avions compris que, grâce à l'influence de l'épigénèse qui se transmettait par les codons de notre ADN éthérique, nous pouvions offrir à nos parties sombres dans le passé et dans le futur l'information lumière-vérité qui les libérerait de leur densité. Car ce n'est que grâce à ce travail de groupe que nos ancêtres illuminés par la vérité vérifiée dans notre présent de troisième densité du service de soi pourront eux aussi, lorsqu'ils opéreront leur choix en usant de leur libre arbitre, changer de densité. Le secret de ce travail alchimique n'est effectivement révélé qu'en filigrane dans le livre de l'Apocalypse 20.5, traduit du grec. Il aboutirait à la première résurrection, celle des saints morts en Christ qui, au son de la trompette de Dieu, se lèveront en premier. Autrement dit, ce n'est que lorsque les initiés se seront véritablement réveillés que s'ensuivra le réveil de l'humanité. Cette chronologie est donc clairement expliquée par le réveil des initiés ou la résurrection des vivants dans le présent, suivi ensuite par le réveil ou la résurrection des morts. Voir le lien sur notre site. Mais ce détail est généralement soigneusement oublié dans la Bible catholique roumaine, et pour cause. Car pour réveiller la partie soi-disant non codante, ce trésor qui contient la particule christique, le gène éthique ou kéristos en sumérien, autrement dit la génétique des fils et filles ardents de la vie, nous devions également accepter de voir un autre aspect du service d'autrui, celui de pouvoir offrir à nos alter ancêtres désincarnés la possibilité qu'eux aussi puissent changer de densité. N'ayant pas de corps physique, ce n'est qu'à travers nos recherches et notre ouverture d'esprit à leur existence et présence qu'ils pouvaient bénéficier des informations pour changer eux aussi de plan de conscience et de réalité. Ce travail correspondrait effectivement aux écrits eschatologiques de la fin des temps. Ce stade d'illumination du monde des défunts par le service d'autrui correspondrait à la résurrection des âmes, c'est-à-dire leur libération hors des zones du non-temps. Ce monde de repos de l'âme, dans lequel elle pouvait décider de se réincarner ou pas dans des mondes densifiés, nous l'appelions cinquième densité. Jules César ne nous avait-il pas informé dans l'une des sessions que le moment venu, il se réincarnerait vraisemblablement en quatrième densité? Certes, il est quasi logique et automatique que le cheminement vers le service d'autrui passe par beaucoup de douleurs, puisque les gens restent généralement sourds à ce que leur âme leur dit. La plupart préfèrent balayer sous le tapis ce qu'elles cherchent à leur communiquer. Et puisque ces gens s'entêtent dans leur déni en ignorant la véritable portée du travail alchimique de l'âme et ne maîtrisant pas le langage des alchimistes, ils tombent gravement malades, prospectent les hôpitaux à la recherche d'un traitement miracle et se laissent croire à une rémission. Mais la connaissance ne devrait-elle pas briller à travers nous tous pour nous libérer également des souffrances ou au moins contribuer à atténuer nos blessures ? Guérir les traumatismes de l'âme grâce à notre travail en tribu, comme les peuples premiers ou les hommes vrais, ne serait-ce pas s'ouvrir à ce potentiel de lignes temporelles divergentes de celles du monde de l'intelligence artificielle, du fric, du pouvoir sur la matière ou du service de soi? Les Cassiopéens n'avaient-ils pas dit qu'en quatrième densité, nous ne serions plus esclaves de la matière, mais que la matière serait à notre service? Ils ne nous avaient sûrement pas dit que nous devions maîtriser la matière, et là est toute la différence. Dans la langue française, par exemple, la maladie est symbolique de ce que le mal a dit ou ce que l'âme cherche à nous dire. Peut-être ne s'agirait-il donc pas toujours de compter sur les progrès de la médecine pour soulager notre mal-être ou alors de faire appel aux Cassiopéens pour résoudre des problématiques personnelles. Ils y font parfois allusion eux-mêmes. Peut-être devrions-nous également apprendre à lire entre les lignes et chercher à percevoir leurs messages subliminaux. Nos guides n'interviennent que pour nous orienter dans nos recherches, non pas pour nous donner la solution. Pour conclure, il semblerait aussi que les Cassiopéens avaient bien précisé dans leur communication du 31 décembre 2020 que ceux qui peuvent donner plus devraient le faire maintenant plus que jamais. Comme nous l'avons déjà dit, l'argent équivaut à l'énergie. Cette énergie vous aide tous à contribuer et à renforcer le centre. Si le centre tient, les rayons et les satellites tiendront aussi. Le PTB essaie de rendre cela difficile, voire impossible. Mais le centre doit tenir pour tous. Nous exhortons ici tous vos membres à faire tout ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup plus de troubles à venir. L'espoir de votre royaume repose sur votre réseau. Ce serait dommage de perdre cet espoir. C'est donc à cette requête que nous répondons aujourd'hui. Non seulement parce que nous sommes tous impliqués dans le processus de guérison physique et spirituelle de l'humanité pour qu'elle puisse encaisser les fréquences de quatrième densité, mais nous sommes aussi impliqués dans celui des membres de votre cercle afin qu'ils puissent continuer à faire briller sur le monde le phare de la connaissance. Les traducteurs du matériel cassiopéen nous ont éclairés dans multiples domaines pendant des années. Toutefois, plutôt constitués d'intellectuels, de scientifiques, de chercheurs ayant toujours besoin de rechercher des preuves cartésiennes et pragmatiques à un problème, ne serait-il pas grand temps pour eux aussi de se pencher davantage sur la symbolique des signes, les synchronicités et de laisser parler leur intuition? Le langage universel de la quatrième densité pourrait leur être offert pour finaliser eux aussi l'œuvre alchimique de leur être. Aussi, ne serait-il pas fondamental de pouvoir remarquer que l'espoir d'un avenir meilleur est synonyme d'un futur non résolu? Ne devrions-nous pas également apprendre à changer la perception que nous avons de la réalité? Peut-être est-il déjà venu le moment de nous laisser glisser dans le terrier du lapin blanc. La séparation des mondes est en cours. Il ne servira bientôt plus à grand-chose d'éclairer l'ancien monde de troisième densité pendant son effondrement. Et à notre avis, à la sortie du tunnel, notre cheminement vers une nouvelle ligne de temps réunira en quatrième densité les tribus et groupes en plus vaste réseau, des collectivités génétiques tribales, des communautés d'âmes qui n'auront plus grand-chose à voir avec des familles parentales ni avec les anciens standards sociétaux et politiques de l'humanité de troisième densité. Nous n'avons donc pas besoin de nous soucier si c'est Trump ou Biden qui gagnera la partie, ni de nous préoccuper de la composition des vaccins. Juste pour info, dans notre jeu de pistes, nous avons découvert que Donald est un prénom écossais issu du gaélique Domnal Dumnalo-Valos. Dumnos du proto-celtique monde d'en bas et Valos, celui qui règne, prince, souverain. Soit celui qui règne sur les mondes d'en bas. Trump dérive de l'ancien français Trompeor, le créateur de trompettes. Information peut-être à rapprocher avec la dernière trompette du livre de l'Apocalypse grec. Ce théâtre de marionnettes n'est qu'une diversion orchestrée par les entités de quatrième densité qui ont elles-mêmes fait installer Trump au pouvoir à la place d'Hillary Clinton pour que, conformément à l'eschatologie biblique, puisse se dérouler la fin des temps. Nous devrions vraiment arriver à comprendre que, quoi que fassent ou pensent les gens, les élites qui gouvernent le monde ne permettront pas que quelque chose puisse modifier leur plan, puisque cela compromettrait leur mission, qui, malgré ce que nous pourrions en penser, reste conforme à la loi de l'un. Ainsi, de la même manière que les catastrophes climatiques reflèteraient la folie du monde, la bataille qui se déroule dans notre réalité extérieure entre tous ces zombies psychopathes n'est que le reflet de nos propres conflits, blessures, traumatismes de l'âme, bien profondément enfouis à l'intérieur de notre être. Les jeux de ces marionnettes ne sont donc que des diversions pour nous éloigner de notre véritable travail intérieur. Finalement, celui qui l'aura compris accomplira véritablement son devoir d'alchimie du soi et n'aura même pas l'occasion de se faire vacciner. Alors si nous parvenons à arrêter de vibrer nos conflits intérieurs, progressivement, par simple résonance, l'oppression des peuples cessera sur terre. Progressivement, par simple résonance, les catastrophes climatiques limiteront leur impact durant les changements terrestres. Par simple résonance aussi, l'équilibre et la paix s'élèveront parmi les nouveaux humains. Il ne s'agit donc absolument pas de méditer en silence pour que le monde change, mais nous devons réunir toutes nos forces et nos compétences mutuelles, donc l'art des gens, afin que nos consciences futures de quatrième et sixième densité puissent enfin procéder à la moisson. Les gens ordinaires ne pourraient jamais imaginer à quel point la voie semée d'embûches vers la connaissance du service d'autrui est épuisante. C'est de la folie, mais ouvrir ce chemin est vital, souvent même amusant. Il n'y aura donc jamais de sauveur extérieur pour libérer le monde. C'est une illusion. Nous devions le faire nous-mêmes, car nous sommes ceux que nous attendions. Vous êtes les Cassiopéens, nous sommes les Léos. voici venu le moment de nous saluer. Sand
et Jean-Noël
et l'équipe des Léo d'Albert.